Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 de Luc, a une caractéristique, c'est qu'il nous raconte plusieurs récits, dont quatre récits qui se suivent et qui mettent en évidence des situations de peur. Et c'est vrai que Jésus n'a de cesse de nous inviter à la foi. Et s'il y a bien quelque chose qui tue la foi, eh bien, c'est la peur. Et il y a dans l'existence différentes peurs. Je crois qu'on a tous eu peur une fois dans notre vie. Peut-être c'est ce qu'on peut connaître encore, des périodes de peur. Des peurs qui ne peuvent peut-être ne pas se voir aux yeux des autres. Parce qu'on a pris l'habitude de garder un sourire, d'avoir des attitudes, mais notre cœur peut trembler. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir cette peur, la peur de mourir, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Et Jésus nous a dit que s'il était dans notre barque, nous arriverions à bon port. Amen.
Amen.
Il faut rejeter cette peur de l'échec, cette peur de « j'y arriverai pas », cette peur du « c'est trop dur pour moi ». Si vous mettez Jésus dans votre barque, dans votre vie, dans vos projets, alors le Seigneur sera avec vous et vous ne pourrez pas couler. Amen.
Amen.
Une deuxième peur que nous avons vue la semaine dernière, c'est la peur de lâcher prise. La peur de perdre quelque chose. Tantôt, on se cramponne comme ça à des conceptions, à des privilèges, à des affections, et on a peur de lâcher. On sait qu'on doit lâcher, mais qu'est-ce qui se passe si je lâche? Il y a une petite anecdote comme ça, on l'a pas raconté la dernière fois, mais c'est une histoire vraie. Hein, il y avait une tempête, c'était un navire... comment ça s'appelle, les navires qui faisaient des grandes traversées des mers. Et voilà, et ça arrivait souvent qu'il y ait des tempêtes et que des bateaux échouaient. Et là, ce jour-là, il y avait une violente tempête. Et voilà que l'équipage mettait les canots dans l'eau pour que le bateau puisse couler et que les gens puissent fuir. Alors certains se jetaient à l'eau, on jetait des bouées, etc. Et puis on disait mais jetez et laissez vos balises, jetez. Et puis il y a un monsieur, il s'est jeté mais il a coulé. Et parce qu'il gardait avec lui des sacs qu'il ne voulait pas lâcher. C'était des sacs remplis de pièces d'or. Quel intérêt! Et oh, la peur de lâcher prise, la peur de quitter quelque chose. Mais le Seigneur nous invite en même temps à lâcher prise, à lui faire confiance. C'est lui qui sera le pourvoyeur à tous nos besoins. Et nous avions vu là dans une histoire des gens qui avaient demandé à Jésus de partir parce qu'ils avaient peur. Peur de lâcher quelque chose, peur de lâcher les intérêts. Et ce soir, nous allons voir une autre peur qui peut tellement être compréhensive. La peur d'être dévoilé. La peur d'être mis à nu. La peur que si on nous regardait, on sache tout ce qu'il y a au-dedans de nous. Cette peur de se sentir honteux. La peur de ne plus avoir ce petit secret à garder. La peur peut-être même que quelqu'un découvre quelque chose qui est enfoui au-dedans de nous et dont on a tellement honte. La peur du qu'en dira-t-on ? La peur du jugement ? La peur de ce que les gens peuvent penser de nous ? La peur de la réaction des gens ? Et s'ils savaient ça ? Et s'ils apprenaient ça ? Qu'est-ce qu'ils diraient ? Qu'est-ce qu'ils feraient ? La peur d'affronter le regard ? La peur d'affronter une personne ? La peur d'affronter nos propres responsabilités. La crainte, peut-être même aussi, d'oser dire des choses. Je crois que ça nous est tous arrivé de se dire au-dedans de nous, « Ah, si je vois telle personne, je lui dirai ceci, je lui dirai cela. » Et quand on est devant la personne, la peur nous tétanise, on n'ose pas le faire. La peur de dire la vérité, la peur d'être honnête, la peur d'ouvrir notre bouche pour des choses qui seraient justes ou injustes. La peur peut-être d'avouer aussi un péché, une erreur, une faute. C'est peur. T'en entends derrière la timidité, c'est pas tellement la timidité, t'en entends, c'est la peur qu'il y a. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de prendre la parole devant les gens. Certains sont littéralement tétanisés, ils sont crispés. mais avouons peut-être aussi quelquefois que cette timidité est une sorte de protection personnelle. Je n'ose pas, je reste dans mon coin. En fait, il y a cette peur qui nous tenaille. Alors on cacha derrière la timidité, derrière la pudeur. Mais en fait, cette timidité, c'est comme un masque. C'est même étouffant. Ça nous empêche d'être vraiment honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Cette peur, en réalité, nous manipule. Et si je vous invite à découvrir au chapitre 8, et on va lire les versets 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Étonnamment, c'était justement là où on l'attendait, et de l'autre côté, on l'avait chassé. J'espère que ce soir, vous êtes venus ici, en vous attendant à Jésus. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, et qui était chef de la synagogue. Cet homme se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique qui avait environ 12 ans et qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Mais maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. 12 ans malade. 12 ans complètement handicapé dans ses mouvements, cette perte de sang continuelle. 12 ans à chercher un remède, des conseils. 12 ans à aller de médecin en médecin, d'examen en examen, à payer, sans aucune amélioration. 12 ans à souffrir, 12 ans à se fatiguer, 12 ans à vivre dans cette fragilité, 12 ans à s'interroger. Mais pire que tout cela encore, 12 ans à vivre dans une exclusion sociale quasi totale. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, elle était juive, dans une communauté juive, et cette les Juifs vivaient sous une loi. Et il y avait une loi qui se trouve en Lévitique, chapitre 15, vous pourrez le lire à la maison, qui donne une spécificité justement de la manière de vivre quand une femme a des pertes menstruelles ou continuelles. Et une femme, une personne qui avait un flux de sang comme ça, était considérée comme impure. Elle ne devait avoir de contact avec personne, parce que si jamais elle touchait une autre personne, cette personne était impure. Elle ne devait pas toucher une chaise. Mais si jamais elle touchait une chaise et que quelqu'un d'autre touchait cette chaise, cette personne était aussi impure. Imaginez pendant 12 ans à être considérée comme continuellement impure, à ne pas pouvoir vous asseoir à côté de quelqu'un d'autre, à veiller là où vous asseyez, à veiller à ce à quoi vous touchez, et surtout à être dans la crainte que de ne pas rendre quelqu'un malheureux. Parce que si jamais quelqu'un vous touchait ou touchait quelque chose que vous aviez touché, il était lui-même impur, donc lui-même exclu. Une journée, deux jours, trois jours, un mois, trois mois. Quelle vie sociale, quelle vie de famille. Zéro, anéanti. Toujours à considérer, se sentir rejeté. Et au bout de 12 ans, les gens le savent. Et donc les gens ont cette même attitude à votre égard. Prenons de la distance, pas trop près. Vous vous rendez compte? Continuellement. Récemment, il y a eu Ebola. Et on a tous vu des images comme ça. Des gens qui étaient atteints d'Ebola. Et tout le monde était bien, bien loin de cette personne. Pour être bien sûr de ne pas avoir un contact. Et bien c'est ce que cette femme a vécu pendant 12 ans. Une exclusion totale de la société. 12 ans à craindre. À se sentir comme un objet de malheur. Je crois que ça nous est déjà aussi déjà arrivé, nous, de sentir un peu le rejet des gens. Même de temps en temps, on se dit, mais quoi, j'ai la peste ou quoi? J'ai la gale? Pourquoi est-ce qu'on ne me regarde pas? Pourquoi est-ce qu'on détourne le regard? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas s'asseoir à côté de moi? On le vit mal, n'est-ce pas? Imaginez que vous le viviez constamment, continuellement, pendant 12 ans. Je ne pense pas que l'on puisse s'habituer à la chose. Je ne pense pas que, évidemment, on peut adopter une sorte de philosophie de vie. Oh, bah, c'est comme ça, tant pis, moi, ça ne me fait plus rien. Mais c'est faux. C'est faux parce que nous avons besoin d'être aimés et de se sentir aimés. Nous avons besoin de ce contact social. 12 ans, avec ce sentiment de rejet, de mise à l'écart. 12 ans. 12 ans où sa vie, ce n'est plus elle qui la vit, mais elle la vit au travers de sa maladie. Parce que tout est conditionné par rapport à ça. D'ailleurs, on ne connaît même pas le prénom de cette jeune femme. On sait qu'elle est malade, parce que de toute manière, dans sa vie, pendant ses 12 ans, tout était centré là-dessus. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, le regard que les gens avaient d'elle n'était que fixé par rapport à cette maladie. Peut-être qu'elle avait des talents incroyables, peut-être qu'elle était une musicienne talentueuse, peut-être que c'était une femme qui aurait pu rendre un homme heureux, peut-être qu'elle avait des dons extraordinaires, mais qu'importe. Peut-être qu'elle avait envie de voyage, peut-être qu'elle avait envie d'aider des autres, peut-être qu'elle avait des projets magnifiques. Mais qu'importe. Le fait qu'elle soit malade de cette maladie annulait tout. Et tout ce qu'elle pouvait penser et dire n'avait de toute manière aucun fruit, aucune espérance. Parce qu'elle était malade de cette maladie qui la tenait à l'écart de tout. Son identité est ôté, ses aspirations sont écrasées, tout est réduit à rien, à néant dans sa vie. 12 ans ainsi. Et l'on peut comprendre que cette femme se retrouve dans une situation en fait complètement improbable. Car cette femme qui est complètement exclue de la société, qui elle-même s'exclut, mais qui s'exclut elle-même pour protéger les autres, voilà qu'elle va faire un acte complètement fou. Un acte de désobéissance à la loi. Parce que pour aller toucher Jésus, elle a dû traverser la foule. Elle a dû toucher des gens. Quelle folie! C'est quasiment suicidaire! C'est qui tout double? Qui tout double? Parce que, imaginez, et si quelqu'un la prenait, et si quelqu'un la voyait, et si quelqu'un réalisait que cette femme impure le touchait et touchait l'autre, vous imaginez les mouvements de foule, surtout à l'époque. Ils n'avaient pas peur, les gens, hein. Quand quelqu'un était pris en flagrant délit d'adultère, on était prêt à la tuer. Quand il y avait des problèmes de racisme, il y avait des problèmes de religion, il y avait des problèmes d'obéissance à la loi, et les gens, c'était œil pour œil, dent pour dent. Cette femme, en prenant le courage, la folie, je ne sais comment dire, d'aller traverser la foule pour toucher Jésus, cette femme fait un acte complètement fou. Elle prend sur elle. Elle ne se laisse pas prisonnière de sa maladie. Elle décide par la foi de franchir tous les obstacles qui pouvaient l'éloigner de Jésus. Elle n'a pas tenu compte ni du qu'en dira-t-on, ni de la crainte de ce que quelqu'un puisse avoir. Elle s'est décidée à aller la voir. C'est en Matthieu chapitre... Je perds la référence. Matthieu 9, verset 21. Vous pourrez le lire à la maison. Cette histoire est racontée également en Marc et en Matthieu. Et en Matthieu, chapitre 9, verset 21, elle se disait, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. » En fait, cette femme qui était malade depuis 12 ans, qui allait de médecin en médecin sans trouver aucun soulagement, qui s'était littéralement ruinée, lorsqu'elle a réalisé ce que Jésus pouvait faire dans sa vie, elle est partie affronter cette foule parce qu'au fond de son cœur, elle se disait, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Je serai guérie. Et pas une probabilité, pas un peut-être. Elle ne s'est pas dit, je vais aller mieux. Elle s'est dit, si je touche, si j'y arrive, si je vais jusque-là, alors je serai guérie. Et ça, ce n'est pas de la folie, ça s'appelle de la foi. Et elle nous donne une leçon de foi. Elle nous montre que la foi, ce n'est pas une sorte d'attentisme, ce n'est pas une sorte de paresse, ce n'est pas une sorte de je m'assois et puis ça va descendre comme ça. Non, elle nous montre que la foi, c'est une détermination. La foi, c'est une force. Et la foi, c'est un objectif. La foi, c'est comme dit en Hébreux chapitre 11, c'est une ferme assurance. C'est une certitude. C'est une conviction. Des choses qu'on ne voit pas encore, mais c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans le cœur. Et c'est ce qui la pousse à aller de l'avant. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui descend comme ça. La foi, la vraie foi, elle est dynamique. La foi n'est pas dans l'attente. La foi, elle est dans l'action. La foi, elle est dans la résolution. La foi, elle est dans la conviction. Cette conviction complètement folle d'accepter de franchir tous ces obstacles qui pourraient l'empêcher d'aller à Jésus. Mais parce que je sais que si je touche Jésus, j'aurai la réponse. Je serai guéri. Et il n'y a pas dans son esprit un doute. Il n'y a pas de limite à la guérison. Il n'y a pas de limite de doute, de crainte à se dire « J'espère que ça marchera. » Non. Cette foi, c'est une intime conviction qu'elle a dans son cœur. Je serait guérie. En fait, cette femme, elle a une force de conviction intérieure incroyable, n'est-ce pas? Une force de conviction qui lui permet d'affronter cette situation. La foi de cette femme est une force. Et pourtant, on pourrait s'arrêter là et dire « Alléluia, c'est magnifique !» D'avoir cette foi, d'avoir cette détermination. C'est magnifique parce qu'elle a bien senti qu'au moment où elle a touché Jésus, elle a été instantanément guérie. Elle a senti en son corps que c'était fini. Vous imaginez, ou essayez d'imaginer le transport d'allégresse de cette femme à ce moment-là. Ça fait 12 ans qu'elle souffre. Elle a cette folie dans son cœur de dire... Si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle prend sur elle, elle traverse cette foule. Elle avance au travers des bruits. Elle touche, et là, elle sent qu'elle est guérie. Je ne sais pas si on a déjà pu vivre ça. Cette force, il y a là une sorte d'opposition de sentiments. Et alors même qu'elle est guérie, voilà que Jésus dit tout haut, « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Et là, on pourrait se dire, mais Jésus, pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question, Jésus? T'as déjà guéri plein de gens. Pourquoi est-ce que tu cherches à ça? Il y a plein de gens qui jouent autour de toi, Jésus, que t'en aies guéri un parmi les autres. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Et il insiste. Parce que personne n'ose répondre. Si, je sais qu'on m'a touché parce que j'ai senti une force qui sortait de moi. Il insiste, il veut vraiment savoir qui l'a touché. Mais pourquoi tu cherches? Pourquoi tu laisses pas cette pauvre femme jouir de son bonheur, tranquille? Pourquoi tu pousses cette femme-là à se dévoiler? Pourquoi tu laisses pas cette femme partir, tranquille, se réjouissant de la guérison, proclamer, chanter des cantiques? Pourquoi tu laisses pas cette femme tranquille? Et Jésus insiste, qui m'a touché? Pierre, il dit, mais attends, Jésus, tu dis qui t'a touché, mais regarde, tout le monde te touche, Jésus. Il y a une foule autour de toi. Tu dis qui m'a touché, mais tout le monde te touche. Oui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché autrement. Imaginez un seul instant. La scène, si cette femme était partie incognito. Elle est en situation d'impureté. Elle n'a absolument pas le droit de toucher les gens. Sachant que si elle touche les gens, elle rend les gens impurs. Cette femme, volontairement, se glisse dans la foule. Improbable d'imaginer qu'elle n'ait pas touché plein de gens. Elle va même toucher l'homme de Dieu, Jésus, le Messie, le prophète. Chacun avait sa considération de Jésus. Elle est guérie et imaginez qu'elle reparte sans rien dire. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Jésus a une bonne raison de vouloir que cette femme se dévoile. Jésus a une bonne raison de vouloir que cette femme ouvre la bouche et s'explique. Jésus a une bonne raison de ne pas laisser cette situation cachée. Parce qu'en fait, il veut la délivrer de la conséquence de sa peur. La conséquence de sa peur? Mais oui. Parce que cette femme, si elle s'est faufilée sans rien dire, si elle s'est dit « je vais juste toucher le bord de mon vêtement », c'est qu'il y a bien une chose qu'elle ne voulait pas, c'était être vue. C'est pour ça qu'elle s'est dit « je vais passer par derrière, je vais me noyer dans la foule ». Ce que cette femme ne voulait absolument pas, c'était qu'on sache qu'elle était là. Et Jésus aurait très bien pu être un gentleman, « oh, bon, je te laisse partir comme ça ». Mais non, il fait exprès parce qu'il veut la délivrer des conséquences de sa peur. Quelle est la conséquence de cette peur? Quelle est la conséquence de la peur quand on a quelque chose à cacher? Quelle est la conséquence de la peur quand on a quelque chose dont on est honteux? Quelle est la conséquence de la peur quand il y a quelque chose qu'on ne veut pas que les autres sachent? C'est le mensonge. Toutes les fois qu'on a quelque chose à cacher, on le cache au travers d'un mensonge. Il y a une histoire comme ça, c'est juste une anecdote parce que ça arrive à plusieurs endroits. Vous le lirez en Genèse chapitre 18, verset 15. Il est écrit « Sarah mentit parce qu'elle a eu peur ». C'est quoi l'histoire de Sarah? Sarah, elle a 90 ans. Elle entend un ange qui dit « Ah, Sarah, tu seras enceinte ». Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a souri comme quelques-uns ici, là. Et l'ange lui dit « Oh, tu as ri ?»« Non, non, j'ai pas ri ». Si tu as ri, parce qu'elle était dévoilée dans son cœur et saisie de crainte, elle a voulu nier. Comme il arrive bien souvent, vous avez eu des enfants, ils sont pris la main dans le sac, non c'est pas moi. Ils savent que c'est eux, mais ils vont nier la chose, ils vont mentir afin de chercher à cacher la faute. Quand nous avons quelque chose à cacher dans nos vies, avouons-le, la conséquence de cette peur c'est le mensonge. Et le mensonge, Jésus le dit, que tous les menteurs iront en enfer. Ne jouons jamais avec le mensonge. Ne jouons jamais avec le mensonge. Parce que quand on ment, ce n'est pas seulement aux hommes que l'on ment, mais c'est à Dieu lui-même. Et le mensonge nous rend prisonniers. Le mensonge nous étouffe. Le mensonge nous dénature. Le mensonge nous empêche d'être nous-mêmes. Le mensonge, pas la peur, nous empêche de nous épanouir réellement. Et cette femme, cette jeune femme, si elle était partie de ce lieu après la guérison, incognito, qu'est-ce qu'elle aurait raconté? Parce qu'elle aurait été guérie, oui ou non? Oui. Et qu'est-ce qu'elle aurait raconté aux gens? Ah bah je suis guérie. Ah bon, mais comment t'as été guérie? Ça c'est une question. Il est difficile de répondre quand nous-mêmes on a fait les choses en douce, quand nous-mêmes on n'a pas osé le dire, quand nous-mêmes on s'y allait en faufilant. Est-ce qu'elle va oser dire « Ah bah vous savez, j'étais impur, vous saviez, bah, je suis allé dans la foule !» Hein? T'étais impur, t'es allé dans la foule? Mais Mais devant la loi, t'es condamnable! Non, elle peut pas dire ça. Et imaginez les stratagèmes, le mensonge qu'elle aura dû imaginer pour justifier qu'elle était guérie sans avoir eu le courage de dire les choses véritablement. Jésus veut votre guérison du corps. Amen. Mais ce que Jésus veut surtout, c'est la guérison de votre âme. Et s'il avait laissé cette femme partir, bien sûr, son corps était guéri. Mais elle aurait commencé à tuer son âme par le mensonge. Elle aurait vécu dans le mensonge. Et quand on vit dans le mensonge, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas heureux, on est prisonnier. Parce qu'un mensonge entraîne toujours un autre mensonge. Et quand on ment, on se voile la face. On a même du mépris pour nous-mêmes. Parce qu'on sait qu'on est en train de tromper les gens. Et quand on regarde les autres, on a un grand sourire. On essaye de paraître, mais au fond de notre cœur, on sait qu'on est dans le mensonge. On sait qu'on trompe. Il n'y a rien de plus destructeur dans une vie que le mensonge. Parce qu'on vit dans une illusion. Et comme on se ment à nous-mêmes, on se détruit notre propre cœur. La peur nous maintient prisonniers. La peur fait de nous des marionnettes. La peur veut nous faire croire à des fausses sécurités. Oh, si tu mens, tu n'auras pas de problème. Si tu mens, tu verras, tu vas t'en sortir. Si tu mens, tu vas voir, ça va bien se passer. Mais c'est un mensonge. C'est une illusion. Là, le mensonge nous fait vivre dans une fausse réalité. Et quand on vit dans l'illusion, quand on vit dans le mensonge, quand on vit autre part que dans la vérité et dans la lumière, nous sommes malheureux. Nous péchons. Et le péché crée la mort dans notre âme. Jusque dans la vie éternelle. La peur. La peur d'être dévoilé, la peur que les gens sachent ce qui s'est passé, la peur d'être honnête, la peur que les gens sachent réellement la vérité sur ce que nous sommes, sur ce que nous pensons, sur nos états d'âme. Pourquoi est-ce que l'on a peur d'être dévoilé? Parce qu'on a peur que les gens ne nous aiment pas honnêtement. Si les gens savaient, peut-être qu'ils ne m'aimeront plus. Si les gens savaient, ils changeront de manière d'être avec moi. Si les gens savaient... Ils vont commencer à me critiquer. Si les gens savent, ils auront plus confiance en moi. Et oui, ça a souvent des conséquences terribles quand on cache quelque chose. Et qu'on a peur que les autres le savent. Et en finalité, on a peur de ne plus être aimé, de ne plus être estimé. N'ayez point cette crainte avec Jésus. Car Jésus ne vous aime pas parce que vous êtes bien. Jésus vous aime parce qu'il vous aime tout simplement. Comme vous aimez vos enfants indépendamment de ce qu'ils sont gentils ou pas gentils, vous les aimez, c'est dans vos tripes, c'est dans votre âme, c'est dans votre cœur, c'est scellé jusqu'à la mort. Dieu vous aime. Il n'aime pas vos péchés, bien sûr, il n'aime pas votre mensonge, c'est sûr. Mais Dieu vous aime, vous. Et vous n'êtes pas votre péché, vous n'êtes pas votre maladie, vous n'êtes pas votre langueur, vous n'êtes pas votre détresse. Il y a vous et il y a toutes ces choses-là. Et ce que Dieu veut ôter de votre vie, c'est ce qui vous empoisonne, c'est ce qui vous tue, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est cette misère, c'est ça que Dieu veut ôter de votre vie. Mais il vous aime, vous. Il vous aime dans ce que vous êtes. Il vous aime dans votre intégrité. Il vous aime parce qu'il vous a créé, il vous a façonné. Il vous aime parce que vous êtes son enfant. De la même manière que cette pauvre femme était limitée à sa maladie et que tout était concentré et elle était comme l'incarnation de sa propre maladie, mais en réalité elle n'était pas cette maladie. La preuve, elle a été guérie. Amen. Elle a connu une vie nouvelle. Amis, vous n'avez rien à prouver devant Dieu, mais vous n'avez rien non plus à cacher. Vous n'avez rien à cacher à Dieu. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 4 verset 18, que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Là où il y a la crainte, il ne peut pas y avoir l'amour. C'est comme opposé, parce que si on a de la peur, si on a des craintes, c'est qu'on craint au jugement, on ne craint pas l'amour, on ne craint pas la tendresse, on ne craint pas la douceur. Mais on craint le reproche, on craint le jugement, on craint la critique, ça on craint ces choses-là. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Amen. Venez à Jésus sans crainte. même si votre péché était noir de chez noir, noir comme le charbon. Vous n'avez pas à le cacher. Au contraire, donnez-les-lui. Jésus n'est pas venu pour vous condamner, il n'est pas venu pour vous juger, mais au contraire, ce qui est noir, charbonneux comme votre péché, Dieu dit qu'il va le transformer et qu'il va rendre votre âme blanche comme la neige. Mais il faut lui donner, il faut le lui confier. Donnez tout à Jésus. Oui, viendra un temps du jugement, oui. Oui, Jésus le dit. Après la mort, vient le jugement. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais oui, il y aura un temps où Dieu va juger le pécheur. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de nous réconcilier avec Dieu. C'est le moment de mettre notre casier judiciaire net, blanc. C'est l'occasion d'oser ouvrir tous les placards de notre cœur qui sont honteux. Et de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais le ménage. Je ne veux plus vivre dans cette honte. Je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Je ne veux plus vivre dans cette apparence. Je ne veux plus là faire semblant que tout va bien, alors que dans mon cœur, c'est la misère. Je ne veux plus faire croire que je suis sans péché, alors que je suis encore captif de telle ou telle obsession. Je ne veux pas, Seigneur, continuer à vivre comme si rien ne se passait, alors que chez moi, c'est la haine, c'est la bagarre, c'est la dureté. Je veux mettre, Seigneur, tout ça à tes pieds pour que tu viennes changer tout ça. Cacher une transgression ne nous fera jamais progresser. Mais la Bible nous dit que celui qui avoue, celui-ci trouve miséricorde. Amen. Jésus nous a donné, et Jésus a donné à cette femme l'occasion de se libérer de son péché. Jésus a donné à cette femme l'occasion de se libérer des conséquences de sa peur. Jésus a donné l'occasion à cette femme de mettre la lumière sur ce qu'elle essayait de cacher. Et c'est ainsi que cette femme, comme il est dit, s'est levée. Et elle a osé tout dire, tout raconter. Elle a osé dire tout. Tout, toute sa motivation, tout ce qu'elle avait vécu. Comment elle avait touché Jésus, comment elle avait été guérie. Elle n'a rien caché. Et c'est parce que cette femme a osé tout dire qu'il n'y avait plus aucune personne pour l'accuser. C'est parce que cette femme a osé tout dire qu'elle a été pardonnée de la bouche même de Jésus. C'est parce que cette femme a osé tout dire qu'elle a été libérée dans son propre cœur. Elle n'a plus rien à prouver, plus rien à cacher. Elle peut réellement commencer une vie nouvelle. Parce que tout devient nouveau dans sa vie, tout. Il n'y a plus personne pour l'accuser, il n'y a plus personne pour lui rappeler son passé, il n'y a plus personne pour lui reprocher son acte de foi, au contraire. Ce qui aurait pu être un objet de condamnation s'il n'y avait pas eu Jésus pour lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Sa foi était plutôt un exemple, et vous le lirez par la suite. Il nous est raconté que d'autres personnes, dans la suite, dans les évangiles, on cherchait également à toucher Jésus et que ces hommes-là et ces femmes-là étaient guéris. Cette femme a même été un exemple pour d'autres personnes. Que cette femme soit aussi un exemple pour nous ce soir. Et pas seulement de se dire « Seigneur, je veux toucher le bord de ton vêtement. » Mais cette démarche sincère de cœur à être sans faux semblant, à venir entièrement tel que vous êtes, à oser ouvrir votre cœur et dire « Seigneur, fais tout ce que tu veux. Je ne veux plus vivre dans le mensonge, je ne veux plus vivre dans l'apparence, je ne veux plus chercher à me justifier ou à me justifier aux yeux des autres ou à me justifier aux yeux de Dieu ou à me justifier à mes propres yeux. Toutes ces justifications ne servent qu'à vous étouffer, qu'à vous construire une carapace, à vous construire une identité. » Jésus vous aime pour ce que vous êtes. Et tout ce qui peut vous empêcher d'être libre, tout ce qui peut vous empêcher d'être épanoui, Jésus le sait. Alors, oui, ne craignez point. Et que nous puissions, nous aussi ce soir, entendre par la foi, cette douce voix de Jésus qui dit « Ta foi t'a sauvé. Ce soir, ta foi peut te sauver. » Ce soir, ta foi peut te sauver et tu peux partir en paix. La seule condition, c'est de venir à Jésus avec sincérité, avec conviction, de lui ouvrir tout votre cœur, de ne rien cacher, et de dire: Seigneur, agis dans ma vie, transforme-moi, opère ce miracle dans ma vie. Je ne veux rien cacher, mais je veux que tu sois toi la lumière dans ma vie. Amen. Je vous invite à vous incliner.